Bonjour. Je vais commencer par une des phrases à la fois les plus belles et les plus importantes de la Bible. Pour moi, même si tous les livres de la Bible se valent, j'avoue qu'il y en a quand même de plus beaux et de plus importants que d'autres. Et au sommet de cette pyramide, je mets, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, l'évangile de Jean. Si vous avez entendu Luc Ferry dire que si, qui n'est pourtant pas croyant, mais il dit si je devais me retrouver dans une île déserte avec un seul livre, ce serait l'évangile de Jean. Moi, je pense que c'est la même chose. La comparaison avec Luc Ferry s'arrête là, bien sûr. Dans l'évangile de Jean, ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire le début. Alors, vous voyez, la plus belle phrase du plus beau passage du plus beau livre de, voilà. Que je n'ai pas besoin de lire parce que je la connais par cœur et vous aussi. Donc le sujet, c'est le logos. Alors, c'est pas par snobisme que j'emploie le mot grec, mais c'est parce que le mot parole, au commencement, la parole, c'est tellement réducteur de dire la parole, c'est tellement plus que ça. Le logo, parce que le logos en grec. Donc nous en français, on comprend que, par exemple, puisque le prologue explique que tout a été créé par lui, si on dit la parole, quand Dieu dit que la lumière soit, on comprend que la parole qui envoie la lumière, c'est le logos. Mais la lumière elle-même, c'est aussi le logos, puisque c'est l'expression de Dieu. Quand Dieu souffle sur l'homme pour en faire un être vivant, dit la Genèse, le souffle de Dieu, qui est tout ce qui sort de Dieu, c'est ça le logos. L'ordre du monde, c'est-à-dire la force qui fait, enfin les forces, l'équilibre des forces qui fait que la Terre ne s'est pas encore écrasée sur le Soleil et qu'elle ne s'est pas non plus barrée à des milliards de kilomètres du Soleil en disant bon bah ciao, et que tout ça tient en équilibre et que cet équilibre permet la vie, tout ça c'est le logos. Tout ça, c'est l'expression de Dieu. Et donc, alors, ça n'est pas mon sujet, donc je me suis promis de ne pas m'étendre là-dessus, mais un philosophe qui vivait bien avant Jean, enfin, quelques siècles avant Jean, qui s'appelle Héraclite, un Éphésien, qui a eu l'intuition de ça, et qui a dit au-dessus de tout, enfin, ce qui gouverne l'univers, le cosmos, comme diraient les Grecs, mais le cosmos, c'est pas ce qui est lointain, c'est aussi notre terre en grec, c'est aussi le cosmos. Ce qui gouverne l'univers, c'est le logos, ultimement. Et Jean confirme l'intuition d'Héraclite en disant oui, c'est vrai, il a raison. Tout ce qui est a été fait par lui et rien n'est sans lui, n'est en dehors de lui. Et il termine alors par quelque chose qui va faire tomber les Grecs de leur, enfin, ceux qui pensent en grec de leur chaise en disant eh ben ce logos, il a été fait chair, sarkos. Et la phrase que je voulais mettre en exergue, c'est celle-là. Donc la phrase suivante, après cette explication, c'est donc à propos du logos, Jean dit cette phrase extraordinaire de profondeur et de portée, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a offert la possibilité de devenir des enfants de Dieu. On aurait presque tendance à glisser là-dessus et ça change tellement tout que Dieu décide que je peux devenir son enfant. Il a offert la possibilité de devenir. Ça veut dire qu'on ne l'est pas au départ. Il n'y a pas deux moyens de devenir l'enfant de quelqu'un quand on ne l'est pas. Il n'y en a qu'un. C'est l'adoption. Et effectivement, les textes, Paul le théologien, quand il va expliquer notre situation, il va utiliser cette notion juridique, puisque c'est une notion juridique, de l'enfant adopté. Alors, il y a plusieurs exemples, mais simplement deux citations dans Romains au chapitre 8 et au verset 14. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. des fils et des filles adoptives. Et il dira la même chose, mais dans plusieurs endroits, mais simplement une deuxième citation pour montrer qu'il y insiste, dans les Galates au chapitre 4 et au verset 4 aussi d'ailleurs. « Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être des fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. » Donc nous voilà avec cette condition magnifique d'enfant adopté, d'enfant de Dieu adopté par lui. Et je ne veux pas m'étendre sur le prologue de Jean, parce que si je me lance sur le prologue de Jean, je ne vais pas tenir mes engagements récents. La phrase suivante, il dit, après celle que j'ai citée en exergue, il dit « Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont cru en son nom et ceux qui l'ont reçu et ceux à qui il a offert la possibilité de devenir des enfants de Dieu, ils ne sont pas nés pour une des trois raisons qui fait que des enfants naissent, ils sont nés parce que Dieu l'a voulu. » Dieu va tellement insister là-dessus. Alors, bon, je vais parler de l'adoption, mais simplement, pour montrer l'ampleur du cadeau qu'il nous fait, il a, je vais pas dire fait semblant, parce que c'est pas dans le genre de Dieu de faire semblant, mais il a marqué les choses au point de prononcer sur son fils unique, dira le même évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, la même formule d'adoption, puisque dans cette culture-là, nous, quand on adopte, on remplit des papiers, enfin c'est paperassier à un point dont notre ami Michel pourrait nous parler longuement. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'encre de stylo. Dans la culture qui est celle de la Bible, on fait une cérémonie et on prononce une formule. On prononce une formule, c'est-à-dire l'adoptant dit à l'adopté, à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Tu seras, la formule exacte, c'est, alors selon que c'est un fils ou une fille, mais admettons que c'est un garçon, je serai ton père et tu seras mon fils. Et une fois que cette phrase-là est dite, l'adoption est considérée comme réalisée et comme valide. Et Dieu va prononcer, au moment du baptême de Jésus, cette phrase-là sur son fils, pour montrer que c'est lui qui inaugure cette offre de Dieu d'adopter les hommes qui croient en son nom. C'est-à-dire, il identifie son fils aux adoptés pour que les adoptés puissent être identifiés à son fils. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est remarquable de portée et de grandeur par rapport au cadeau que Dieu fait à l'humanité. Parce que, avant l'adoption, qu'est-ce qu'on a en commun? Michel, tu m'excuses si je te prends en exemple, mais tout le monde connaît ici ta situation. Quelques années avant l'adoption, qui y avait-il de commun entre tes enfants et toi? Rien. Pas le pays, même pas le continent, pas la langue, pas tout ce qui s'est construit depuis, mais je vais y venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es un parfait exemple, donc pardon de... Mais aujourd'hui, surtout reste, malgré la différence visible, mais c'est les parents et les enfants. Beaucoup plus, forcément dans la façon de s'exprimer, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les représentations. Parce que tout ce qui s'est tissé entre les parents et les enfants, ça identifie les uns aux autres. Mais avant tout ça, il y avait quoi? Il y avait rien. Il y avait, j'allais presque dire, un contraste. Quelle différence entre pas la même génération, pas la même... Puis alors, je parlais de représentations, pas du tout les mêmes représentations. Au fin fond de cette île de Madagascar et à Grasse, qu'est-ce qu'il y a de commun dans la façon d'être, dans la façon de vivre, dans la façon de s'exprimer? Rigoureusement rien. Et être enfant de Dieu par adoption, c'est aussi, j'allais dire, c'est d'abord reconnaître que avant, on n'avait rien de commun avec lui et il n'avait rien de commun avec nous. Et si nous sommes aujourd'hui ses enfants avec à l'intérieur de nous un esprit qui ose par notre bouche dire Abba, quand on s'adresse à Dieu, c'est-à-dire Père, c'est uniquement parce qu'il l'a voulu, uniquement le fruit de sa volonté. Comme pour l'adoption humaine, j'allais dire, c'est-à-dire la décision de quelqu'un qui dit « moi, je veux un enfant, je veux faire de quelqu'un qui n'est pas mon enfant et qui n'a rien de commun avec moi, qui n'a rien à voir avec moi, culturellement, enfin, tout, je veux en faire mon enfant ». Et c'est cette seule volonté-là, volonté qui doit être opiniâtre dans beaucoup de ses aspects, parce que humainement, c'est un peu le parcours du combattant. Mais évidemment, ce que Dieu veut, ça se fait. Et Dieu a voulu ça pour moi et pour chacun de nous. Et ça, c'est un immense cadeau. Alors, la formule rituelle, elle va être rappelée dans l'Épître aux Hébreux, en disant « auquel des anges, ça c'est pour Jésus, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, et encore, et c'est ça la formule d'adoption, moi, je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. C'est pour dire, Dieu a fait pour Jésus, évidemment, comme premier adopté, mais aussi pour nous, ce qu'il n'a même pas fait pour les anges. Dieu, le Père, a-t-il prononcé une formule d'adoption ? Aucun. Alors que sur moi, sur vous, sur chacun de nous, il l'a fait. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 18. « Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, au milieu d'eux, j'habiterai, je marcherai, et moi je les accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ça veut dire que ce qu'il a dit pour son fils unique, il le dit aussi pour chacun de nous, mais évidemment, vous n'en doutiez pas. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais il y a si vous avez lu toute la Bible, ce dont je ne doute pas, vous allez me dire, il y a un truc qui ne va pas. C'est que Jean, dans son prologue, annonça l'adoption comme quelque chose de nouveau, et ce que Jésus va confirmer en disant, ben, quand vous priez, ça aussi c'est une phrase magnifique, on passe à côté, parce qu'on a tellement l'habitude de l'habitude, que comment il faut prier ? Et Jésus répond, quand vous priez, dites Père. Quand vous priez, dites Père. Vous avez le droit d'appeler Dieu votre Père. Alors, ça paraît être une nouveauté, et pourtant, cette formule d'adoption, si vous avez été attentif, vous savez qu'elle existe à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Et il y en a un en particulier qui se l'entend, j'allais dire, à toutes les étapes. Mais enfin, principalement, avant même sa naissance d'ailleurs, celui qui l'entend, cette formule d'adoption, c'est Salomon, par excellence. Salomon, Dieu prononce sur lui cette formule d'adoption avant même qu'il soit né, si vous prenez... Et j'allais dire, c'est presque une habitude de la Bible que de prendre... C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir l'Ancien Testament, sinon... l'intérêt de l'Ancien Testament, c'est l'image des choses qui vont venir. C'est-à-dire que ça montre, ça explique à l'avance des choses qui vont être concentrées par et dans la venue du Christ. Mais l'Ancien Testament, ça permet d'expliciter, ça permet d'étaler en quelque sorte un certain nombre de choses, et c'est à ça que je vais m'intéresser ce matin. Donc, c'est pour ça que il est écrit dans le Nouveau que tout ça, même ce qui paraît le plus anodin dans l'Ancien Testament, c'est aussi pour nous instruire. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 12 à 15. Alors, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Lorsque tes jours... Alors ça, c'est Dieu qui parle à David par l'intermédiaire d'un prophète qui s'appelle Nathan. Donc Nathan va de la part de Dieu annoncer à David la chose suivante. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Avant même qu'il existe, cet enfant, Dieu prononce sur lui la formule d'adoption. S'il commet une faute, je le corrigerai en me servant d'homme pour bâton et d'humain pour le frapper, mais ma fidélité ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. C'est selon toutes ces paroles et selon toute cette vision que Nathan parla à David, avant même qu'il naisse. Et la suite, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 22, parce que ce qu'on a dit au père, il y a bien un moment, il faut le dire au fils, donc c'est le père qui va le répéter à son fils. Premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 9. Voilà. Donc c'est David qui explique à Salomon ce que Dieu lui a annoncé. Voici, il t'est né un fils qui sera lui un homme de roi. Oui, parce que on va commencer un peu plus haut. Pourquoi est-ce que c'est Salomon? Enfin, vous le savez tous, mais pourquoi est-ce que c'est Salomon qui construit le temple et pas David? Parce que David a trop de sang sur les mains. Enfin, Dieu en a décidé ainsi. Donc tu as répandu beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne construiras donc pas de maison pour mon nom, car tu as répandu beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici, il t'est né un fils qui sera, lui, un homme de tranquillité et auquel j'accorderai la tranquillité vis-à-vis de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Oui, alors, on prononce Salomon, donc ça ne saute pas aux yeux, mais Shalomon, dans Shalomon, il y a Shalom, évidemment. C'est pour ça, ça sera un homme de paix. Donc Shalomon sera son nom parce que ce sera un homme de paix. Et je donnerai paix et tranquillité à Israël pendant ses jours. C'est lui qui construira une maison pour mon nom. Et on retrouve la formule. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai son trône royal sur Israël pour toujours. Et donc ce qui a été annoncé d'abord au père et maintenant au fils, il faut que ce soit annoncé au peuple. Et au peuple, ça va être annoncé un peu plus loin, toujours dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28 et au verset 6, pour que tout le monde soit bien au clair. Puis il m'a dit, donc ça c'est l'annonce au peuple, « C'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi comme fils, et moi je serai pour lui un père, j'ai préparé sa royauté pour toujours, comme aujourd'hui, il reste ferme dans la pratique. » Si, comme aujourd'hui, il reste ferme dans la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. On a Salomon comme exemple d'adopté. Alors, pourquoi me direz-vous? C'est intéressant parce que, si vous avez été attentif à ces quelques lectures, on s'aperçoit de trois choses, enfin, quatre même. D'abord, l'adoption, et ça c'est une... Enfin, les quatre éléments sont des leçons pour nous. Que dit... En dehors de la formule d'adoption, que dit Dieu à propos de Salomon? Il commence par dire, c'est lui qui construira ma maison. C'est lui qui va construire le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu adopte Salomon, non pas pour le plaisir, pour la beauté du geste, comme on dit, mais parce qu'il a un projet, pour quelque chose. Il est adopté pour faire quelque chose, pour accomplir le projet de Dieu. Et singulièrement, construire le temple. Alors, vous me voyez venir. Il s'agit pas pour nous de construire un temple avec des pierres. Mais vous connaissez les textes du Nouveau Testament. Nous sommes individuellement et collectivement des temples. Enfin, des temples individuellement et collectivement un temple. Ne savez-vous pas, dit Paul, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous connaissez les textes, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Dans les lettres aux Corinthiens, ça revient régulièrement sous la plume de Paul. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est, j'allais dire, au niveau individuel. Et Pierre, lui, dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 5, « Vous-même, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale et pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Entrez dans la construction. C'est-à-dire, vous êtes à la fois individuellement et collectivement, en tant qu'Église, appelés à construire un temple, parce que on n'est pas du jour au lendemain le temple. C'est vrai que le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais pour y construire une personnalité digne. Alors, ça aussi, c'est un miracle, c'est que le Saint-Esprit vient dans un bâtiment, entre guillemets, en chantier. C'est-à-dire, il vient au milieu d'un endroit où normalement, il ne devrait pas se sentir très à l'aise. C'est pas sa place d'être dans un truc qui n'est pas parfaitement pur. Et pourtant, il le fait. Dieu nous fait don de son esprit avant, et heureusement, parce que sinon ça viendrait jamais, avant que nous soyons purs et saints. Et justement, le but d'avoir le contenu avant le contenant, c'est que c'est avec l'Esprit Saint qu'on va se construire comme un temple, à la fois individuellement et collectivement, entrer dans la construction. Mais qui est-ce qui l'amène, cette construction? Évidemment, c'est Dieu. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le premier des éléments que nous enseigne l'exemple de Salomon, c'est que on n'est pas adopté juste comme ça, merci, au revoir. C'est-à-dire, la théologie du poisson rouge, c'est-à-dire on est sauvé pour être mis dans un bocal où on tourne en rond jusqu'à la fin de nos jours. Alors, mille pardons, donc une fois pour toutes, pardon, mais j'ai une image parlante. Imaginez une adoption, vous allez adopter un enfant à l'autre bout du monde presque, et vous faites les papiers, vous avez votre magnifique décision d'adoption, et vous dites, très bien, merci, au revoir. Alors, au revoir, ça n'est pas sans conséquence. C'est mon héritier maintenant, puisque officiellement c'est mon enfant. Donc, il héritera de mon patrimoine, mais par contre, il va rester dans son île, moi je vais retourner chez moi, chacun sa vie, et puis c'est très bien comme ça. Michel n'imagine pas une seconde d'être rentré de Madagascar sans ses enfants. Et Dieu, c'est pareil. Il faut qu'on le vive comme ça. On vit. Je vis parfois comme si Dieu m'avait dit, écoute, ok, c'est bon, les papiers sont en règle. Un jour, tu hériteras de mon patrimoine. Chouette, je suis héritier. Mais c'est pas ça du tout. Sa démarche dans l'adoption, c'est un projet de vie. C'est-à-dire faire en sorte, comme aujourd'hui, des enfants qui auraient eu une toute autre vie si rien ne s'était passé. S'ils étaient restés à Madagascar, ils auraient eu une vie qui aurait été celle de Malgache. Ils ont complètement changé. C'est une, alors, à proprement parler, une conversion, c'est-à-dire une vie à la place d'une autre. Et ce que Dieu veut pour nous, enfants adoptés, c'est ça. C'est pas simplement une étiquette « je suis le fils de machin », enfin en l'occurrence « je suis le fils de Dieu », c'est « j'ai une autre vie pour toi que celle à laquelle naturellement tu étais destiné. J'ai un projet pour toi, te construire comme un temple de mon esprit ». Ça veut dire tu vas changer toutes tes représentations, plutôt « je vais changer » ou « tu vas changer avec mon aide », parce que ça ne se fait pas contre la volonté de l'intéressé. Hein, Michel? On sort les pagaies, parfois. Et Dieu sort les pagaies avec moi, parce que ça rame. Mais tous les jours, il me propose cette autre vie, en disant, moi je t'ai adopté, pas pour qu'un jour, au ciel, tu hérites de mon patrimoine, ce qui est déjà un très beau cadeau entre nous. Comme hériter du patrimoine des Wedling, pour un malgache, ce serait un très beau cadeau. C'est pas ça, c'est pas seulement ça. C'est aussi, tu viens avec moi, tu habites avec moi. Je souperai avec lui, il soupera avec moi, ça veut dire ça, si quelqu'un m'ouvre. Et cette autre phrase qui un peu mystérieuse qui dit « il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour », ça veut dire ça. Ça veut dire « il nous a adoptés et il nous a ramenés chez lui ». Alors, comment est-ce que je me vis, moi? Est-ce que je me vis comme quelqu'un qui est content d'avoir son acte officiel avec le coup de tampon, mais par contre je vis comme je vivais avant, ça me va très bien? Ou est-ce que j'ai changé de pays, j'ai changé de langue, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé ma façon d'être, et puis surtout, je suis entré dans un projet qui, au départ, n'était pas le mien. C'est ça que Dieu veut pour moi, pour nous. Alors, est-ce que je coopère ou est-ce qu'il est obligé de sortir les rames? Alors, c'est prévu, la sortie des rames. La deuxième chose qu'on sait à propos, qu'on vient d'apprendre à propos de Salomon, c'est assez flippant d'ailleurs, puisque vous l'avez lu comme moi, s'il commet une faute, je le corrigerai. Dieu dit, maintenant, je l'ai adopté, donc, je vais faire en sorte qu'il soit ce que j'attends de lui, et pas ce que lui voudrait être. Et là, la différence est marquante, parce que à son père naturel, Dieu dit, t'as trop de sang sur les mains pour me construire un temple, c'est pas rien quand même. Et donc, je vais l'adopter, et la démarche commence avant même la naissance de l'enfant, je vais l'adopter parce que ce sera un Shalomon, un homme de paix. Donc ça veut dire que, contre l'image du père qu'il a eue, moi je vais en faire quelqu'un d'autre. Mais ça se fera dans la douleur. Alors, vous connaissez, je ne vais pas lire parce que sinon ce serait trop long, mais les textes à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sur ce qu'est la correction au sens où Dieu l'entend. Mais dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, on a une explication très claire là-dessus, en disant c'est pour notre bien qu'on est corrigé. Comme les enfants, comme les parents corrigent leurs enfants pour leur bien, et non pas par vice ou par perversité, mais pour qu'ils deviennent des gens meilleurs que ce qu'ils auraient tendance naturellement à être. Donc si nous, dit le texte, on est capable de faire ça avec nos si nous, naturellement, on est capable de faire ça avec nos enfants, et je peux vous dire par expérience qu'il n'y a pas de plus... je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur, pas exagéré, mais c'est une grande satisfaction d'entendre ces enfants dire « Moi, je dis à mes enfants ce que vous me disiez, vous, mes parents, il y a 25 ans, et que je ne supportais pas d'entendre. Aujourd'hui, j'ai la surprise de m'entendre dire les mêmes choses. » Ben oui, évidemment, la roue tourne. La roue tourne, et ça veut dire que, il y a en tout cas une partie de ce qu'on a essayé de dire qui a été entendue. Donc, Dieu dit à propos de Salomon, à chaque fois qu'il ira de travers, je le corrigerai, mais quelle preuve d'amour! Dieu dira exactement la même chose à Paul. Paul qui n'est encore, au moment où la parole est prononcée, qui n'est encore que Saul de Tarse. Il lui dira, en utilisant ce proverbe à l'époque bien connu, c'est-à-dire, quand il y a un bœuf qui travaille dans un sillon, s'il a tendance à s'écarter du sillon, parce que on le remet dans le droit chemin avec un aiguillon, et si il est têtu, comme une mule, ce qui pour un bœuf, s'il est têtu, on aiguillonne d'autant plus qu'il veut pas, mais de toute façon, dans le sillon, il va y retourner, et Dieu dit à Paul, toi, t'as tendance à être plutôt têtu dans ton genre, ce qui fait ta personnalité, mais sache, et il lui cite l'espèce de proverbe, c'est pas celui qui aiguillonne qui a mal, c'est celui qui est aiguillonné. C'est-à-dire, c'est pas celui qui mène la charrue qui se fait mal en aiguillonnant, c'est l'animal. Donc, ça va être, alors le proverbe, c'est dur pour toi de résister à ça. Mais l'immense cadeau que fait Dieu à Paul, et là on rejoint l'adoption, c'est de dire, ça va te faire mal si tu me résistes, mais pas une seconde, j'envisage de te virer pour mettre un autre bœuf à la place. Pas une seconde, je renonce à ce que ce soit toi que j'ai choisi qui soit mon fils adopté avec, alors pour Paul, un projet très précis. Je suis choisi par Dieu, même si je suis une mule et je le suis trop souvent, il ne mettra pas à la poubelle mon acte d'adoption pour dire j'en prends un autre à la place, plus docile, plus malléable. Pas une seconde, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais autant on peut avoir, mais ça je te rassure, c'est vrai aussi pour les enfants naturels, autant on peut de temps en temps avoir envie de leur dire « bon maintenant tu vas dans ta chambre parce que le prochain argument, ça va être le coup de boule », autant jamais il ne vient à l'esprit d'un père de dire à son fils, même si c'est un enfant adopté, « je vais t'échanger contre un autre ». Je vais te ramener au service après-vente, et puis on va m'en donner un autre qui marche mieux. Jamais de la vie. Et surtout pas quand c'est Dieu. C'est irrévocable, ça. Donc, le cadeau que Dieu fait à Salomon, après avoir dit à David, « Je veux pas de toi, t'as trop de sang sur les mains, pour me construire ma maison », il aurait pu dire à Salomon, « Je t'adopte, et si ça marche pas, ça sera celui de la génération d'après. » Non, non, c'est « Je t'adopte, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est un choix irrévocable. Tu es mon enfant adopté et on ne revient pas là-dessus. Et du coup, si tu ne marches pas droit, je te corrige. Mais quel cadeau! Quel cadeau que Dieu me fait en me disant « Si tu ne marches pas droit, je ne t'échange pas contre un autre. Je ne te rebalance pas dans le monde en disant « Je vais en sauver un autre à la place qui sera un peu moins débile. » Non, il m'a choisi. Il ne revient pas là-dessus. Et c'était l'étape suivante. Il le dit à Salomon, ma fidélité ne s'écartera pas de toi, enfin de lui. Ma fidélité ne s'écartera pas de lui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, et on connaît les textes du Nouveau Testament, là encore je ne fais pas de citation, mais je pourrais en faire, mais vous savez tout ça par cœur. Même quand nous, on est infidèles, lui, il est fidèle. Parce que il ne fonctionne pas sur le donnant-donnant. C'est pas « je t'adopte si je suis payé en retour, si tu m'aimes comme il convient, c'est-à-dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Moi, au premier jour, je suis débarqué. » Si c'est un contrat, l'adoption. Mais c'est pas un contrat. Ma fidélité ne s'écartera jamais de lui. Ça, c'est le troisième élément. Il y aurait beaucoup de citations là, mais je veux à tout prix parler et finir sur le quatrième élément. Ce qu'on a lu aussi en quatrième lieu est ce que Dieu dit à propos de Salomon, après avoir dit « c'est lui qui bâtira une maison », après avoir dit « s'il commet une faute, je le corrigerai », après avoir dit « ma fidélité ne s'écartera pas de lui », il dit « je lui donnerai la tranquillité face à ses ennemis ». C'était dans le texte. « Je lui donnerai la tranquillité face à ses ennemis ». C'est le contraire de « puisque ça sera Shalomon, un homme de paix, il n'aura pas d'ennemis ». Bien sûr qu'il en aura. Bien sûr qu'il en aura. Il va être servi d'ailleurs. Mais face à ses ennemis, moi je lui donnerai la tranquillité. Et ça aussi c'est une leçon, après se dire qu'en tant qu'enfant adopté, on a un projet à vivre, un temple à construire, à se construire comme un temple et un temple aussi à construire ensemble. Après avoir dit que il faut accepter la correction de Dieu parce que c'est la contrepartie de son acte d'amour inconditionnel à notre égard, inconditionnel. Quoi qu'on fasse, il ne revient pas en arrière. Après avoir dit « ma fidélité ne s'écartera pas », c'est-à-dire même quand tu seras dans la rébellion la plus intense, parce que dans l'adoption aussi, on passe par une phase d'adolescence, entre guillemets, c'est-à-dire de révolte, et puis on est avec Dieu, on n'est évidemment jamais à la hauteur en tant qu'enfant. Et lui, il dit « je serai là tout le temps ». Et il finit par dire « je ». Enfin, il finit pas, on aurait pu mettre les quatre éléments dans n'importe quel ordre, mais moi je voulais finir par ça. « Je te donne la tranquillité en face de tes ennemis ». C'est-à-dire, tes ennemis, il y en aura. Tu vas te heurter à l'hostilité. Ta vie, en tant qu'enfant adopté, ne sera pas un long fleuve tranquille. Si tu viens en France, en Occident, à Grasse, c'est pas pour autant que tu seras chaque jour, chaque seconde de ton existence la plus heureuse des personnes. Parfois tu trouveras que ça va pas, mais je serai là tout le temps, et je serai là pour te sécuriser, c'est-à-dire pour te donner la tranquillité. Jésus qui dit je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde, je vous donne là quelque chose que le monde ne connaît pas. Et moi je peux vous dire, parce que je le vis au quotidien, professionnellement, je peux vous dire que les enfants adoptés par Dieu ont, face à l'hostilité, face à la difficulté de la vie, vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Vraiment. Et autant, je serais intéressé par les statistiques sur la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Je suis sûr que ce qui se consomme dans l'Église, ça n'a rien à voir avec ce qui se consomme ailleurs, parce que nous avons une tranquillité. Je finis par là, le psaume 23 que tout le monde connaît par cœur, contient cette phrase énigmatique, « Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires ». Ça veut dire des adversaires, j'en ai, hein, le Seigneur est mon berger, machin, bon. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Ça veut dire que le fait qu'on mange à la même table que Dieu, c'est ça que ça veut dire. Le fait qu'on soit à ce point vraiment les enfants adoptés, mais les enfants de Dieu, il a offert la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Donc, comme tout père, il nourrit ses enfants, donc il dresse une table. Eh bien, cette table-là, la table que nous partageons avec notre Père, puisque c'est lui qui l'adresse, c'est aussi un rempart contre l'hostilité. L'hostilité existe, mais l'hostilité ne peut pas nous atteindre, nous, comme elle peut atteindre les autres, ceux du dehors. Parce que le fait d'être les enfants de Dieu, ça crée d'emblée un rempart. Il nous a donné une paix, une tranquillité et un repos. Il y a trois mots en hébreu comme en grec, mais les trois notions sont souvent mélangées. Une tranquillité, une paix et un repos que rien ni personne ne peut nous enlever, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'il avait annoncé à Salomon en lui disant « Je t'adopte et comme cadeau d'adoption, alors que c'est nous qui devrions passer notre vie à le remercier, mais on n'a pas les moyens de le remercier. C'est un cadeau. C'est par définition gratuit. Mais dans la corbeille, non pas de mariage, mais d'adoption, il y avait aussi ça. Ce repos, cette paix et cette tranquillité qui est au-dessus de ce que le monde peut entamer en nous. Alors, j'ai tout ça. Nous avons tout ça à vivre. Et je vous laisse simplement ce matin, j'ai rien, je ne vous ai pas appris grand-chose, mais je voulais rappeler simplement, insister sur le fait que être enfant de Dieu, adopté par le Créateur du ciel et de la terre, c'est un cadeau inouï et qui par définition se renouvelle tous les jours, parce que quand on est le père de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un, on l'est tout le temps, même dans son sommeil. Eh bien, il est ça pour nous. Et ça mérite l'adoration et la louange au-delà de ce qu'on fait avec nos moyens, mais au-delà de ce qu'on peut exprimer.